franceinter.fr.
Et si la vie ailleurs dans l'univers était atmosphérique et aérienne, en élargissant le concept déjà très flou de zone habitable, des chercheurs écossais suggèrent que des formes de vie aériennes pourraient exister dans les hautes couches atmosphériques des naines brunes, ces astres froids à mi-chemin entre une planète et une étoile. Pour nous éclairer, Franck Celsis est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
On va discuter avec vous de cette hypothèse originale. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Par quel bout on commence alors, Axel, finalement, sur ce thème?
On explique ce qui s'est passé. On peut demander à Franck de nous expliquer un tout petit peu l'hypothèse de ces Écossais, pour commencer.
Oui, alors, on ne connaît pas grand-chose, bien sûr, sur l'origine de la vie et sur les milieux où on peut la trouver dans l'univers. On se base beaucoup sur ce qu'on sait de la vie terrestre. Néanmoins, on a cette idée de suivre l'eau liquide. L'eau liquide nous semble un ingrédient nécessaire à la vie telle qu'on la connaît. Donc, une première étape de cette recherche, c'est de repérer les environnements astrophysiques où on pourrait avoir de l'eau liquide. Et donc là, dans ce travail, ce que proposent ces chercheurs, c'est que dans l'atmosphère de certaines naines brunes, on a la bonne gamme de température et de pression pour avoir la formation de nuages d'eau liquide. Alors hélas, ils ont fait une erreur en faisant cette estimation.
Alors voilà, c'est ça dont il faut parler, parce que en lisant la publication, vous vous en êtes aperçu en fait il y a quelques minutes.
Vous m'avez contacté ce matin, c'est vous qui m'avez parlé de cet article, donc je l'ai regardé avec intérêt. Et effectivement, ils ont bien identifié dans ces naines brunes une gamme dans l'atmosphère, une gamme d'altitude où la température est bien compatible avec la température de l'eau liquide, c'est-à-dire entre 0 degré Celsius et environ 370 degrés Celsius. Ça, c'est la gamme où l'eau liquide est possible.
Ouais.
Mais il faut aussi, pour avoir de l'eau liquide, avoir une pression de vapeur d'eau supérieure à 6 millibars. Et comme les naines brunes contiennent très 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 peu d'eau, il faudrait, pour avoir 6 millibars de vapeur d'eau, des pressions bien supérieures à celles qu'on trouve dans la bonne gamme de température. Et ils ont fait une erreur un peu de débutant, qu'on n'attendrait pas dans ce niveau de publication, et qui invalide en fait ces objets-là pour ce type de phénomène. Ouais. Après, on peut retenir l'idée de se poser la question: est-ce que des atmosphères, qu'elles soient des atmosphères de naines brunes ou de planètes, c'est le cas d'ailleurs de Vénus, qui n'a pas de conditions habitables à sa surface, mais qui a des gouttelettes d'eau liquide dans son atmosphère, on pourrait donc rechercher ce genre d'environnement. Alors ça ne s'applique pas aux naines brunes que ces chercheurs-là avaient identifiées. Il faudrait, pour trouver ça dans des naines brunes, avoir des naines brunes beaucoup plus froides, qu'on n'observe pas encore, et aller chercher ces conditions-là à des pressions beaucoup plus élevées, non pas à la pression que vous avez dans la pièce où vous êtes actuellement, mais des pressions 100 à 1000 fois supérieures pour avoir suffisamment d'eau et que cette hypothèse soit valide.
Et quand vous dites beaucoup plus froide, ce serait quoi la température de ces naines alors ?
Alors, c'est compliqué de définir la température de ces objets. Nous, pour nous, astrophysiciens, on se donne des températures, comme ça, ça a du sens. Mais en fait, tout dépend à quel endroit on regarde. On affecte une température, en fait, qui correspond à la luminosité de ces objets. Donc, si je dis, par exemple, qu'une naine brune a une température de 300 Kelvin, donc à peu près 0 degré Celsius, sa haute atmosphère va être à cette température, mais plus on descend, plus il va faire chaud, jusqu'à faire des températures très 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 élevées dans son intérieur.
Franck Celsis, est-ce qu'on connaît des formes de vie aériennes et uniquement aériennes sur Terre ?
Alors ça, ce serait une question à poser à un biologiste. Il est clair que la dynamique atmosphérique, les gouttes d'eau qu'il y a dans l'atmosphère transportent des ingrédients de la vie et transportent des cellules vivantes qui vont du coup se déplacer, on le sait pour des pollens, des spores, etc. À savoir si maintenant la goutte d'eau atmosphérique est le site d'un écosystème, c'est-à-dire que durant le temps de la vie d'une goutte d'eau, il se passe des choses dans un écosystème vivant de bactéries. C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse, c'est pas du tout mon expertise, et c'est une bonne question qu'il faudrait que vous creusiez.
Eh ben on va le faire. Et
j'en ai une autre. Sur Terre, la source d'énergie, c'est le Soleil, donc c'est l'astre autour de laquelle tourne la Terre. Là, si la vie est sur l'astre, quelle est la source d'énergie de ces organismes ?
La vie, elle s'est utilisée différentes sources d'énergie. Effectivement, il y a eu un grand bouleversement dans la vie terrestre quand la vie terrestre a réussi à utiliser le rayonnement venu du Soleil. Ça a été un grand bouleversement parce que ça a permis d'utiliser une source d'énergie beaucoup plus importante que le faible flux d'énergie interne qui nous arrive de l'intérieur de la Terre et qui en plus est peu utilisable du point de vue thermodynamique par la vie. Donc si on se pose maintenant la question d'une vie qui serait dans l'atmosphère, par exemple d'une naine brune, la question c'est quelle serait la source d'énergie. C'est pas du tout une question triviale. La vie est un phénomène très hors équilibre, qui a besoin d'une énergie qui a une qualité particulière, qui a une entropie la plus basse possible pour qu'elle puisse être utilisée. Donc il ne suffit pas, comme les auteurs écossais le disent, avoir à disposition les éléments qu'il faut, le carbone sous forme de méthane, de monoxyde de carbone, l'hydrogène, l'azote, etc. Il faut aussi qu'il soit présent dans des formes activées, des formes suffisamment énergétiques pour que la vie puisse en extraire de l'énergie, puisque effectivement dans ce cas-là, il n'y aurait pas de source externe, il n'y aurait pas de rayonnement qui arrive de l'extérieur, qui est émis par une étoile beaucoup plus chaude comme c'est le cas de la Terre et qui peut être utilisée. Donc on sait que la vie peut utiliser d'autres sources d'énergie, c'est le cas sur Terre, il y a des formes de vie qui vivent à l'intérieur de la Terre, qui vivent dans les roches, dans des endroits bien sûr où il y a de l'eau liquide, mais qui n'utilisent pas directement l'énergie du Soleil, qui utilisent des déséquilibres chimiques liés à la circulation de l'eau dans des zones de température différentes au sein de la Terre. Mais c'est des formes de vie qui font pas grand-chose, qui ne bénéficient pas de toute l'énergie que la photosynthèse elle est capable d'emmagasiner et d'utiliser.
Franck Celsi, justement, quand on cherche la vie, on va essayer de trouver des systèmes planétaires qui ressemblent plutôt aux nôtres, avec des zones d'habitabilité, mais est-ce que c'est pas un manque d'imagination criant? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de vie, même invisibles, qui pourraient exister dans l'univers?
Alors effectivement, la question des zones d'habitabilité, d'abord il faut bien voir qu'elle est posée généralement par des astrophysiciens comme moi, donc on simplifie énormément le problème et on va d'abord regarder où est-ce qu'on va trouver certains ingrédients pour la vie. L'un, c'est l'eau liquide. Alors l'eau liquide, on rajoute un autre élément qui est, on va en particulier s'intéresser à l'eau liquide à la surface de planète. De cette façon, la vie, si elle y est présente, elle bénéficie de la présence d'eau liquide, mais elle a aussi accès au rayonnement de l'étoile, et donc elle peut développer la photosynthèse. Alors là, on peut dire stop, attention, c'est un peu restrictif, puisqu'on sait qu'il y a de la vie qui n'a pas besoin de ce rayonnement stellaire et qui peut utiliser l'énergie à l'intérieur. Donc du coup, on peut étendre très largement cette zone d'habitabilité aux intérieurs des planètes. C'est pour ça que, par exemple, on s'autorise à aller envisager de la vie à l'intérieur des satellites glacés des planètes géantes, comme Europa, qu'on veut explorer pour poser cette question. Justement savoir s'il y a de la vie. Le problème, c'est si on parle de vie qui n'est pas dans le système solaire mais ailleurs, il faut pouvoir la repérer
et voilà.
Avec des télescopes. Et donc, on se retrouve dans le problème de celui qui cherche ses clés sous un lampadaire. Il faut trouver le lampadaire. Et si la vie se trouve dans la zone d'habitabilité où il y a à la fois de l'eau liquide à la surface et donc du rayonnement, eh bien là, la vie peut mettre en place la photosynthèse. Et dans ce cas-là, elle peut produire des phénomènes beaucoup plus faciles à discerner de ce que fait juste la physique et la chimie de base. Sur Terre, il n'y aurait pas la photosynthèse. Un observateur extérieur, il aurait bien du mal à savoir qu'il y a de la vie sur Terre. Il faut cet input d'énergie énorme de l'étoile pour espérer que la vie puisse bouleverser en fait l'environnement d'une planète, tous les grands cycles biogéochimiques, le cycle de l'oxygène, le cycle du carbone, d'une façon qui soit observable à distance.
Merci beaucoup Franck Celsi, c'est vous qui avez été notre lampadaire aujourd'hui pour nous éclairer sur cette publication dont vous avez donc décelé une erreur assez énorme.
Je pense que beaucoup d'autres vont la déceler, elle est c'est assez ça. Facile à déceler.
C'était publié dans l'Astrophysical
Journal. Une revue sérieuse, l'Astrophysical Journal, ouais. Pourtant.
Merci beaucoup et Axel, bon week-end.
Bon week-end Mathieu.
Au revoir.
Allez,
au revoir.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle forme de la mémoire mise en évidence par stimulation magnétique. Une étude parue dans la revue Science ce matin pense avoir mis en évidence donc une nouvelle forme de mémoire. Elle servirait au cerveau à stocker les souvenirs avant de les inscrire durablement dans la mémoire à long terme. Différente de la mémoire de travail qui ne subsiste seulement que quelques heures, eh bien cette nouvelle forme de mémoire transitoire doit être encore confirmée, mais elle pourrait avoir de nombreuses implications médicales et pratiques, surtout pour la compréhension des mécanismes d'apprentissage. Un seul trip à la psilocybine est efficace pour lutter contre la dépression et le stress lié à la maladie. Cette substance hallucinogène, contenue essentiellement dans les champignons magiques interdits en France, est depuis plusieurs années testée pour ses vertus thérapeutiques. Un nouveau test réalisé par des chercheurs de New York montre que pour des patients atteints de cancer avancé, une seule prise de psilocybine accompagnée d'un suivi psychologique diminue drastiquement le stress et soigne la dépression pour plusieurs mois. Et puis la 30e édition du Téléthon, ça se déroule aujourd'hui et demain avec une collecte anniversaire pour la l'Association française contre l'hémiopathie. Un objectif à battre, celui du record de 2015 avec 101 millions d'euros collectés. Si vous souhaitez participer et financer le Téléthon, eh bien retenez le numéro de téléphone à composer pendant tout le week-end, 36 37, pour vos promesses de dons.